Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous sa forme Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer L'Empereur de Paris, la grosse prod française de cette fin d'année dont on va causer avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut.
Cénociné Extra Ball spécial L'Empereur de Paris, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Alors cet empereur que nous annonce le titre du film de Jean-François Richet, c'est un personnage bien connu de notre histoire nationale. C'est Eugène François Vidocq, un ex-bagnard évadé qui se retrouve policier, que joue ici Vincent Cassel. C'est ça, Julien?
Oui, exactement. Un personnage réel et qui avait et déjà été adapté plusieurs fois en France, et notamment avec un film de Pitoff. De Sinistre Mémoire, qui est un film absolument imbitable, mais qui est un vrai film. Je reviens juste une petite virgule dessus, qui est un vrai film, parce que c'est pas assez souvent dit, je trouve. Ça reste quand même un vrai film expérimental, le film de Pitoff. C'est le premier film tourné en numérique. Jean Rabas, qui avait signé les décors, avait eu une approche extrêmement moderne, en fait, sur comment travailler les décors, en travaillant notamment main dans la main avec les départements des effets spéciaux, qui avaient été montés de toutes pièces par Pitoff, etc. Donc c'est un film irregardable, hein, Vidocq de Pitoff. Moi, je vais pas défendre dessus, mais
c'était assez dur.
Non, mais c'est une horreur. Et
avec Gérard Depardieu.
Mais c'est aussi intéressant aussi de le rappeler, parce que je pense que moi, je peux pas juger L'Empereur de Paris en le séparant de son contexte.
Oui.
Je veux dire par là que tout ce que je vais dire serait totalement invalidé si la production française populaire était saine, réussissait à fournir son lot de divertissements variés et performants et réalisés par des gens compétents et qui ne prend pas son public de haut, etc. Si on avait une industrie du cinéma un tout petit peu plus équilibrée, je pense que c'est un film qui serait un peu passé à l'as. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai l'impression que ça va être un peu le cas. Moi, je trouve que c'est injuste, en fait, si c'est vraiment le cas, parce que c'est plutôt honnête, en fait, L'Empereur de Paris. Je dois aussi rajouter un autre truc, c'est que par rapport à tout ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas sensible, en fait, au cinéma de Jean-François Richer.
Ouais.
J'avais trouvé que État des lieux, Ma cité va craquer, par exemple, qui avait été plutôt bien reçu quand ils étaient sortis, étaient des films très, très mauvais. De l'amour était une tentative honnête, aussi, je trouve, de comédie romantique, enfin film d'amour, mais c'était pareil, je trouve que c'était assez imbitable, et j'avais été extrêmement déçu par son adaptation de Mérine, pour autant que je puisse être déçu par Jean-François Richer, puisque c'est pas vraiment un cinéaste que je suis, mais il y avait un potentiel dans Mérine qui était énorme, en fait, à la fois de synthèse de tout le cinéma policier français. Et une proposition un peu plus moderne, tout en s'emparant en fait d'une icône du monde interlope français qui est extrêmement forte, en fait, qui est une vraie qui a un véritable impact. Et donc je suis allé voir L'Empereur de Paris sans rien attendre, et même en pensant me subir encore une fois ce type de grosse production assez pénible, et j'ai été plutôt agréablement surpris. Et je mets ça sur le compte de plusieurs choses. La première chose, c'est que je pense que c'est un film que Jean-François Richer, il est pas mal habité. Ce que j'ai découvert ultérieurement, mais ce qui sent en fait dans le film, c'est que c'est un vrai fan d'histoire, en fait. Et donc Vidocq a vraiment véritablement existé, et je pense que le mélange, en fait, le goût pour le genre, en fait, de Jean-François Richer, qui est évident, hein, depuis le début de sa filmographie, et puis aussi ce bagage, cette affection qu'il a pour un certain courant du cinéma américain, mélangé avec cet amour de l'histoire, provoque un mélange qui est, je trouve, plutôt digeste, en fait. C'est-à-dire que t'es à la fois dans le divertissement, t'es là pour t'amuser, et en même temps, il y a une patine réaliste qui fait que tu n'es jamais en décalage par rapport à ce qu'on est en train de te montrer. Et ça, encore une fois, pour du cinéma français, c'est pas toujours le cas. C'est même plutôt rarement le cas, je trouve. Et l'autre truc qui me semble encore plus important, c'est que on dira ce qu'on voudra de Jean-François Richer, mais je pense que c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Et en l'occurrence, je pense que là, il y a des gens qui avaient déjà travaillé avec lui. Je pense notamment à Marco Beltrami, avec qui il travaille depuis son remake d'Assaut. Qui a signé la musique qui signe une composition. En tout cas, je l'ai pas écouté à part, mais dans le film, elle fonctionne super bien. Et alors surtout, ce qui est très agréable, c'est que il laisse sa place à la musique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des vraies séquences musicales où elle a vraiment le devant et elle a réussi à m'emporter, en fait. Et ça pallie pas mal, en fait, à une mise en scène qui est pas toujours très inspirée. Je suis plutôt gentil même en disant ça. Et tout ça est soutenu par autre chose, qui est un choix qui est assez étonnant, je trouve, mais extrêmement bien vu, qui est le choix du directeur de la photo. Parce qu'il se trouve que le film a été photographié par Manu Dacos, qui est un directeur de la photo qui est en pleine explosion en ce moment en France, qui avait notamment signé Alléluia, le dernier film de Fabrice Duvel, qui avait signé L'étrange couleur des larmes de ton corps, qui avait signé aussi Évolution de Lucila Dzelajovic. Et ce qui est super, en fait, avec Manu Dacos, c'est que c'est pareil, il arrive à donner un supplément, en fait, de caractère à un film qui n'est pas forcément aussi très goûtu. Donc tout ça fait que c'est plutôt plaisant. Et alors, il y a encore une autre couche au-dessus de tout ça, c'est que le film est bien produit aussi. C'est un film de Mandarin. Donc des frères Altmaier, et qui, je trouve, sont plutôt des très bons producteurs, et l'argent est là où il faut, et c'est pleinement aussi satisfaisant à ce niveau-là. Tout ça fait que, du coup, dans L'Empereur de Paris, c'est un film qui est plutôt bien mené, avec même quelques petites idées de mise en scène qui sont liées à l'écriture, qui sont plutôt efficaces. Je vais pas trop en dévoiler, mais il y a le chef de la police, en fait, parisienne, qui est submergé sous les dossiers, en fait, et il y a tout un travail, en fait, sur comment petit à petit, grâce à l'apport de Vidocq, il arrive à classer ses dossiers. C'est pas transcendant, c'est pas un truc absolument incroyable, mais ça fonctionne, en fait, dans le film. Et puis c'est une idée visuelle qui correspond à un concept scénaristique, ce qui est pareil, n'est pas forcément le cas. Et il y a une volonté, et ça, je pense que c'est aussi lié à Manu Dacos, au travail avec les décos et tout. Il y a aussi même quelques vignettes, en fait, qui sont très bienvenues et qui proviennent d'une iconographie typiquement française et qui n'est pourtant que rarement illustrée dans notre cinéma. Ouais. Moi, j'ai beaucoup pensé, et je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on adapte un personnage comme Vidocq, notamment aux gravures du 19e siècle et celles qui pouvaient illustrer parfois certains grands romans. Il y a un travail sur les noirs, voir la silhouette de Vidocq, c'est une très belle silhouette en plus sur ses costumes à cette époque-là, errer en fait dans les ruelles de Paris, extrêmement sombre, limité comme ça, c'est vachement agréable. Il y a une tentative aussi sur une scène extrêmement dramatique de livrer une image purement picturale, en assumant le côté pictural, c'est-à-dire en assumant le côté très posé avec Vidocq qui surplombe en fait une dépouille. Alors, qui surplombe une dépouille avec derrière un incendie énorme et tout. Et tout ça fait que L'Empereur de Paris n'est pas un film vraiment mémorable. D'ailleurs, je l'ai vu il y a un mois et j'ai déjà malheureusement du mal à m'en souvenir un peu. Mais c'est parfaitement honnête. Et moi, je suis sorti en me disant j'aimerais en voir plus des comme ça. Déjà, c'est possible, définitivement. Mais ça, on l'avait déjà vu. Et voilà. Mais on le voit encore une fois pas suffisamment souvent, et surtout je me suis dit je voudrais en voir plus souvent, en fait. Je pense qu'il y aurait ça pourrait plaire au public, ça pourrait avoir une logique économique et ça pourrait aboutir à de vraies belles choses, quoi. Et c'est assez inattendu en plus de la part de Jean-François Richer.
Comme quoi, voilà. Faut jamais désespérer. Exactement, mon bon Julien. Voilà. On peut toujours être surpris par les gens, bien comme en mal. L'Empereur de Paris, c'est à découvrir en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Julien, merci à Julien La Technique, à l'Antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Binge. When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that enables your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.